Chapitre 19 Le supplice de la glace. Lorsque Chrysler revint dans la chambre de veille, Charles Elwell était assis devant la table d'acajou, débarrassé de ses cartes, et faisait honneur au repas copieux qui venait de lui être servi. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée, en pensant que peut-être que ce repas était le dernier. Chrysler s'assit derrière lui sur un pliant et alluma un cigare. Le chimiste, d'ailleurs, ne s'était même pas retourné. Il ratissa tous les plats rangés devant lui, vida les deux bouteilles de vin et, daignant enfin s'apercevoir de la présence de Chrysler, murmura « Je désirerais maintenant digérer en paix. Il est 2 heures de l'après-midi. À 3 heures, je serai à votre disposition. » Chrysler, sans mot dire, se leva et referma sur lui la porte de la chambre de veille. À travers les hublots ouverts, il put voir Elwell se recoucher sur son divan et s'assoupir. À 3 heures, le chimiste fut debout. Accompagné de Chrysler et du chef mécanicien Furkheim, il descendit dans la chambre de froid. « Inutile, n'est-ce pas ? » avertit-il ses compagnons d'un ton décidé. « De m'adresser des observations. Je crois connaître ce que j'ai à faire. Lorsque les appareils seront prêts, je vous en aviserai, afin que vous puissiez y enfermer Miss Drake et son père, puisque telle est votre intention. »« Vous en avez pour longtemps ?» questionna seulement Chrysler. « 1 demi-heure au plus, si cette canaille de Marbourg n'a rien dérangé. » Plus un mot ne fut échangé. Elwell, tranquillement, examina manomètres et thermomètres, tourna des manettes, mit en marche la machine à faire le vide. Derrière lui, attaché à ses pas, Furkheim, le front plissé, la bouche entr'ouverte, tout son être tendu en un immense effort d'attention, essayait en vain de comprendre. À un certain moment, il hasarda une observation. « Mais l'acide, si vous le transvasez avant que... »« Mr. Chrysler, veuillez faire taire cet âne ou bien confiez-lui l'ouvrage, » grommela le chimiste, sans dédaigner seulement regarder le mécanicien. Des yeux, Chrysler fit signe à Furkheim de s'écarter. Toujours en silence, Elwell continua à manœuvrer les délicats organes composant l'appareil. Il arrêta enfin le moteur commandant la pompe à faire le vide, et se tournant vers Chrysler, qui commençait à s'impatienter en dedans, déclara en se croisant les bras « Ça y est, c'est terminé. Mon appareil est complètement inutilisable et irréparable. Karl Chrysler, faites ce que vous voudrez maintenant. » Chrysler blême. Malgré son extraordinaire empire sur lui-même, un frémissement convulsif agita ses mâchoires. Son unique main valide se crispa si fort que les ongles crevèrent la paume. Mais cette vague de fureur ne dura qu'une brève seconde. « Bien joué, Elwell, » dit-il de sa voix âpre. « Maintenant vous allez payer !» Il siffla. 4 bandits en armes, qui attendaient devant la porte ouverte du compartiment, se précipitèrent sur le chimiste. Elwell n'opposa aucune résistance et se laissa ligoter sans prononcer un mot. « Portez-le dans la chambre de veille, » ordonna Chrysler. « Et vous, Furkheim, vous croyez imbécile, mais pas à ce point. Pensez qu'il a tout détraqué sous vos yeux. »« Mais Chrysler, » bafouilla le Poméranien, « j'ai voulu vous faire observer qu'il vidait l'acide sulfurique sur les... »« Oh, il fallait vous expliquer, allez-vous-en. » Le chef mécanicien, tête basse, obéit. Sur ses pas, Chrysler quitta le compartiment. C'était surtout contre lui-même qu'il était en fureur. Il aurait dû penser qu'Elwell saisirait cette occasion de se venger. Le chimiste n'y avait pas manqué. Maintenant, la machine était hors de service. Pour la réparer, marbre ou mort, il faudrait des mois, et encore si l'on y parvenait. Au reste, peu importait, c'était présentement que Chrysler avait besoin d'annihiler ses victimes. Et la chose n'était plus possible. Une seule alternative restait. Faire esclave à Sakhaline et envoyer Stein acheter un navire aux États-Unis. Karl Adler ne pouvait même plus naviguer sans conduire ses documents vers la potence. Je transborderai Drake et sa fille sur le nouveau navire. Je tenterai une dernière fois de les convaincre. S'ils n'ont pas changé d'avis, tant pis, ils mourront. Quant à elle ou elle, il paraît cher son coup d'audace. Une lueur de sang passa dans les yeux de Chrysler. Ah, celui-là, il périrait dans les tortures. Il appellerait la mort à grands cris avant d'être délivré par elle. Le bandit se hâta vers la chambre de veille, si vite qu'il heurta son bras cassé contre la rampe de l'échelle de la passerelle. La douleur fut si violente qu'il faillit crier. Très pâle, il domina sa souffrance et rejoignit Alwell qui, ligoté, avait été replacé sur le divan qu'il occupait avant de déjeuner. Chrysler, s'étant assis sur un pliant, resta muet pendant quelques minutes, ses yeux durs fixés sur le prisonnier, et il parla enfin. « C'est une comédie qui a assez duré, Alwell. J'ai agi comme un sot, je le reconnais. Mais c'est fini. Je ne vous demande plus rien. Lorsque vous aurez une communication à me faire, je l'écouterai. Je suis pas pressé. » Ce fut dit lentement, avec une sorte de calme sinistre. Le chimiste ne put s'empêcher de frissonner. Chrysler, se levant, sortit de la chambre de veille, et pendant le restant de la journée, ne s'occupa plus de son prisonnier. Il ne s'occupa point non plus de Francis Drake et de sa fille, cependant à les faire surveiller étroitement. La température, qui s'était considérablement refroidie, baissait encore, et avec rapidité, à mesure que l'Adler se rapprochait du courant glacial, qui, promenant des banquises du pôle, débouche à travers le détroit de Bering avant de se perdre dans les eaux plus chaudes du Kuo-Siwo. Ça et là, vers le nord, des icebergs de plus en plus grands apparaissaient, et leur approche réfléchissait encore l'atmosphère. L'eau gela dans les conduites des cabines. Chrysler, qui surveillait le thermomètre avec attention, jugea le moment venu d'accomplir les desseins qu'il méditait. Un matin, vers 4 heures, alors que le mercure marquait 20 degrés au-dessous de zéro, 4 robustes marins réveillèrent brusquement Alwell, qui sommeillait, engourdi par la douce chaleur régnant dans la chambre de veille. Ils l'enveloppèrent d'une épaisse pelisse de fourrure et le portèrent à l'arrière. 2 autres marins apportèrent alors une cuve d'eau tiède, prise à la cuisine et qu'ils déposèrent au pied du grand mât. Elwell, impassible en apparence, mais se demandant ce que signifient ces préparatifs, fut déchaussé. Ses pantalons furent relevés jusqu'à mi-cuisse. Les 2 bandits le soulevèrent et le placèrent contre le mât, le long duquel ils l'attachèrent étroitement, debout dans le caveau rempli d'eau tiède. Chrysler, un cigare en bouche, avait surveillé l'opération. Il saisit un des fanaux suspendus à la filière de la tente et l'approcha du chimiste. Sans hâte, il vérifia la solidité des cordes maintenant le prisonnier, le serrage des nœuds. Satisfait, il déposa le fanal sur le pont et s'expliqua.
« Je suppose que vous êtes confortable, Alwell, dit-il. Cependant, cela ne durera pas. L'eau va se refroidir. Elle va geler autour de vos jambes. Et vous resterez là jusqu'à ce que vous m'ayez livré les formules 71 et 19, ou que vous mouriez. Cette dernière alternative demandera au moins 4 jours et 4 nuits. 4 jours et 4 nuits, c'est très long. Beaucoup plus long que vous ne supposez, Alwell. Vous en apercevrez. » Le chimiste ne répondit pas. Sous l'influence de la basse température ambiante, l'eau dans laquelle baignaient ses jambes était déjà tombée à zéro. Il commençait à sentir le froid mordre sa chair. « Mes mesures, surprise !» conclut Chrysler. « Vivez, mourrez, c'est à vous de choisir. Je saurai me passer de vous. » Il replaça son cigare entre ses dents et s'éloigna à pas tranquille. Et pendant des heures et des heures, Elwell, les dents serrées, la sueur de l'angoisse coulant à ses tempes, souffrit des tortures de l'enfer. Le contenu entier de la cuve s'était solidifié et broyait ses muscles et ses rotules. Il ne savait plus si ses jambes brûlaient ou gelaient. Impossible de les bouger. Kressler, avec une diabolique astuce, ayant fait lier ses chevilles l'une à l'autre. Son sang vivant, qui voulait vivre, refluait vers la partie supérieure de son corps, vers sa tête, pour trouver un peu de chaleur. Des bourdonnements furieux retentissaient dans ses oreilles. Des éblouissements passaient devant ses yeux. Oubliant toute dignité, elle ou elle se tordit dans ses liens en vain. Alors, pris de délire, il commença à hurler d'une voix aiguë, monotone. Il s'arrêtait de temps à autre lorsqu'il était trop épuisé pour recommencer peu après. Ses hurlements avaient quelque chose de si horrible que les bandits, chargés de le surveiller, avaient pâli, mal à leur aise. Pendant toute la journée, elle ou elle continua ses clameurs. Elles résonnèrent d'un bout à l'autre du navire, dans le calme du vent et de la mer. Margaret Drake et son père devaient les entendre. Et cela, Kressler l'avait prévu. Vers 6 heures du soir, il alla rendre visite au financier et à sa fille. Il ne s'était pas trompé. Les hurlements du misérable arrivaient, très distincts, dans la cabine servant de prison à Margaret et à son père. « Oh, c'est un bon qui raille, » expliqua-t-il rédigeamment. Le bandit, après avoir salué ses victimes avec politesse, « Oui, je lui ai fait prendre un bain de pied, un peu prolongé, et l'eau a gelé autour de ses jambes. C'est très douloureux, paraît-il, mais il n'y a rien comme les bains de pied pour dégager la tête et donner des idées lucides. Si, comme je l'espère, le procédé réussit, il se peut que je vous en fasse bénéficier, Drake. Car je suppose que vous êtes toujours aussi entêté, ainsi que Miss Drake. C'est extrêmement regrettable. » Aucune réponse n'honora ces odieuses paroles. Père et fille se contentèrent d'en développer le misérable d'un regard méprisant. « Me permettrai de revenir demain, matin, » conclut Kressler. Et il se retira sur ces mots. Pendant toute la nuit, Hallowell continua ses affreuses clameurs. Vers 3 heures du matin, succombant à l'épuisement et à l'ébranlement nerveux causé par la douleur, il s'assoupit un peu. Mais ceux qui le surveillaient avaient des ordres. Ils brisèrent la glace autour des jambes du supplicié et remplirent de nouveau la cuve d'eau tiède. Après un soulagement momentané, les souffrances du chimiste reprirent plus atroces que jamais. Ses hurlements n'eurent plus rien d'humain. Et soudain, il éclata de rire, d'un rire monotone, sans timbre, ininterrompu. Il était fou. Kressler, prévenu, ne put que le constater. Il eut un de ses coutumiers haussements d'épaule, comme pour narguer la destinée contraire, et ordonna de descendre le chimiste dans une cabine et lui faire absorber du vin chaud. Il espérait que l'accès serait de courte durée et que le malheureux, revenu à la raison, consentirait à tout plutôt que d'écrire d'être nouveau soumis à l'effroyable torture. Kressler avait vu juste. Au jour, la folie de Charles Hallowell cessa. Elle cessa avec sa vie. Une vive attaque d'apoplexie l'avait tué. Kressler, s'étant assuré du décès, fit immédiatement jeter le corps par-dessus bord. Un instant, il ressentit l'envie de faire subir le même supplice à Francis Drake, mais un vague pressentiment l'avertit que ce serait en vain. Mieux valait garder le financier et sa fille comme otages. Il se désintéressa d'eux pour le moment. L'Adler, cependant, continuait sa route vers l'ouest. 2 jours plus tard, comme il n'était plus qu'à 100 de miles du détroit de la Pérouse, Fourcaim arriva sur la passerelle, pâle et défait. Il annonça, d'une voix tremblante, qu'il s'était trompé, qu'il n'y avait plus que pour quelques heures de charbon dans les soutes. Ce charbon était de plus mauvaise qualité qu'il ne l'avait cru et les chauffeurs avaient été obligés d'en consommer exagérément pour maintenir la pression. Kressler ne sourcilla pas. La mauvaise fortune, décidément, s'acharnait sur lui. Mais brûlez tout ce qui reste, ensuite vous brûlez les espars, les portes des cabines, les planches du pont, enfin tout ce qui est en bois. Nous sommes à 400 miles d'Alexandrovsk, 40 heures à Dineux. Il faut y arriver, allez brûler aussi la provision de peinture, d'huile et de pétrole. Avec tout cela, nous arriverons. Fourcaim s'était attendu à un pire accueil. Il se retira, tout heureux et surpris, en promettant de tout faire pour que l'Adler atteigne Alexandrovsk. Et de fait, 43 heures plus tard, à la fin d'un calme après-midi, le yacht, ses roufles sans portes, ses écoutilles absentes, son pont déchiqueté, véritable squelette de navire, laissa tomber ses ancres devant la vaste rade d'Alexandrovsk. Au pilote russe aussitôt venu, Kressler expliqua que son navire était un petit yacht anglais en croisière d'hydrographie dans la mer d'Orkost et qu'il s'était trouvé à court de charbon par la faute d'un marchand japonais voleur lequel avait indignement trompé sur la quantité de combustible fournie. Il avait donc tiré sur Alexandrovsk, le port civilisé le plus proche, car les Japonais, il ne voulait plus en entendre parler. Le Russe approuva cette opinion. Une heure plus tard, l'Adler, dont Kressler avait eu soin de mettre les papiers en règle, accostait le wharf de bois d'Alexandrovsk.